Chapitre 35. April. Quand ils arrivèrent à Ann Arbor ce même jour, April avait parcouru au total plus de 60 kilomètres. Elle était épuisée, ce que n'avait en rien arrangé la poussée d'adrénaline du milieu de journée. Mais au moins, elle savait où aller. Comme toutes les grandes villes universitaires, Ann Arbor ne manquait pas de panneaux de signalisation permettant aux visiteurs et aux étudiants de trouver facilement leur chemin sur le campus. De plus, la jeune femme se dirigeait à l'ancienne, avec une carte. Le campus nord, où se trouvaient la plupart des laboratoires de recherche en ingénierie de l'université, se situait de l'autre côté du fleuve par rapport au centre-ville. Mais ils ne le comprirent qu'une fois aux abords du campus principal, après avoir suivi une longue route qu'Ike avait repérée. April ne se rappelait pas son nom. Elle longeait une petite base de la JTF, puis une myriade de magasins à l'abandon et enfin de vieilles bâtisses imposantes reconverties en sièges de fraternité. L'immense centre hospitalier universitaire du Michigan, qui pouvait à lui seul passer pour une petite ville, se dressait en face. Il y avait de la lumière à certaines fenêtres, des patrouilles et des points de contrôle de la JTF le long de la rue. Washtenaw Avenue, voilà comment elle s'appelait, qui virait à gauche devant le complexe. Ann Arbor avait l'air d'avoir traversé des moments difficiles. La plupart des fraternités avaient brûlé. Les bars et restaurants au sud de la zone universitaire principale accusaient tous des fenêtres cassées et des impacts de balles. Ils s'engagèrent dans le campus. « La grande base locale de la JTF se trouve près du stade de foot », lui apprit Ike, « au sud de la ville. » Bill, ayant été un grand fan de football universitaire, April se rappela avoir vu des photos de ce stade, avec son grand M jaune sur la ligne des 50 yards. Les casques des joueurs étaient ornés de trois bandes jaunes qui, d'après ce que lui avait un jour expliqué son mari, représentaient les griffes d'un glouton. « C'est fou les détails qui nous reviennent quand on tient à peine debout », se dit-elle. L'arrêt de la navette du campus leur permit de réduire davantage le champ de leurs recherches. « fit April en la lisant à la lumière d'une lampe torche. « Il y a un bâtiment de recherche biomédicale au bout du campus nord. » Ils n'étaient qu'à 3 ou 4 kilomètres de leur position. « Vous êtes ingénieur biomédical ?» demanda Ike. « Non, mais mon mari, qui était ingénieur en génétique, travaillait sur des projets médicaux, » expliqua-t-elle. « À mon avis, la personne que je recherche travaille sûrement dans ce bâtiment. Ou elle devait y travailler. En tout cas, c'est par là qu'il faut commencer. »
« Ça me paraît logique, » approuva-t-il. « Vous voulez y aller maintenant ?»
Elle en mourait d'envie, même. Sauf qu'elle était à bout de force. Après tous ces mois passés à chercher la vérité sur la mort de Bill, elle touchait à présent au but. Pourtant, April avait, paradoxalement, du mal à aller jusqu'au bout. Et si Koopman se trompait, et que personne ici ne savait rien? Et si la VLS n'était rien de plus qu'une légende? Elle n'arrivait pas à savoir ce qu'elle en pensait. L'épuisement lui causait une migraine folle. Elle avait marché pendant 13 heures d'affilée, failli perdre la vie, et elle-même tué 3 personnes. À supposer qu'elle mette la main sur quelqu'un qui avait connu son mari, elle ne serait pas en état de lui poser des questions cohérentes, elle le savait. « Non, se résigna-t-elle, je suis crevée, Ike. La journée a été rude. »
« C'est clair. »
Il balaya les environs du regard, depuis les lumières électriques des points de contrôle près de l'hôpital, jusqu'aux ténèbres silencieuses du campus principal. Un autre détail revint sans crier gare à la mémoire de la jeune femme. On surnommait cet endroit le Diag.
« Mieux vaut ne pas débarquer au coucher du soleil. Les gens se montrent rarement confiants à cette heure-ci. »«
C'est vrai, » admit-elle.
« Je propose de nous trouver un coin où passer la nuit. J'ai vu un endroit convenable au bout du pâté de maison. »
Il avait repéré un café situé sur un toit, à l'étage d'un petit traiteur. Les escaliers grincèrent sous leurs pas, et ils arrivèrent dans un bar à chicha. Un comptoir en verre, qui avait servi de présentoir à différentes variétés de tabac, avait été brisé et pillé. Pareil pour le réfrigérateur à porte vitrée contre le mur. Des bouteilles vides jonchaient le sol, mais rien ne laissait penser que quelqu'un squattait l'endroit. « Ça pue là-dedans !» constata April. Ike acquiesça.
« On pourrait dormir dehors, » Il fait bon ce soir. »
Il avait raison. Ils sortirent sur la terrasse. April remarqua un escalier de secours qui menait dans une ruelle, derrière la rangée de bâtiments. Il y avait également des impacts de balles sur les murs et des douilles entre les planches. Mais en tout cas, la fusillade qui avait eu lieu ici était terminée depuis des lustres. La rue était calme d'un bout à l'autre.
« Hé, un bras zéro !» s'exclama l'agent.
Il s'agissait d'un modèle en fer forgé, de ceux qui servaient à faire des feux dans un jardin ou sur une terrasse. Ike cassa deux bancs en bois qui se trouvaient sur le balcon près de l'escalier de derrière. Il mit alors un peu d'amadou dans le bras zéro, puis le recouvrit de quelques planches, avant de sortir un briquet jetable. Après, il en avait 8 ou 10 au fond de son sac. À plusieurs reprises durant l'hiver, elle en avait échangé d'autres contre de la nourriture. Sa capacité à faire un feu à tout moment avait beaucoup joué dans sa survie. Aussi s'était-elle jurée de toujours avoir un briquet sur elle. Le feu lui remonta le moral. Elle tira un canapé en osier près des flammes et s'y étendit de tout son long. Ike, lui, s'était installé sur une chaise de l'autre côté.
« Bon, fit-il, nous y voilà. »
« Ouais, mais rien ne vous oblige à rester. Vous m'avez déjà permis d'arriver jusqu'ici. On n'a pas besoin de vous en mission ?»«
Directive 51, » dit-il. « Je vous emmène à destination, puis je verrai où je peux donner un coup de main dans le coin. »
Quelque chose dans cette phrase retint l'attention d'April. Ne lui avait-il pas dit qu'il avait quelque chose à faire à Ann Arbor ?«
Dans le coin ? Vous n'êtes pas d'ici, c'est ça ?»
Ike gloussa. « Je voyage. J'ai traversé l'Ohio, le Michigan, la Pennsylvanie. J'essaie d'aller là où je peux rendre service. »
« En tout cas, je suis contente que vous ayez été là pour me rendre service à moi, » plaisanta-t-elle en sentant le sommeil venir. « Qu'est-ce que vous faisiez là, d'ailleurs ?»«
Il y a souvent des problèmes à proximité des villes où se trouvait une prison avant l'épidémie, » expliqua-t-il. « J'essaie de savoir lesquelles sont concernées. » et de garder un œil dessus. Et il se trouve que vous passiez par là au même moment.
« Quelle chance !» lâcha-t-elle avant de bâiller. « J'espère en avoir encore demain. »
« Ça serait quoi votre scénario idéal ?»
Ike avait l'air grave. Après, il l'aimait bien. Pas seulement parce qu'il lui avait sauvé la vie, mais aussi parce qu'il était facile de lui parler. « Voyons voir. J'entrerai dans ce bâtiment d'ingénierie biomédicale, et je trouverai quelqu'un qui connaissait Bill. Puis je lui demanderai pourquoi il a été assassiné, et j'aurai enfin ma réponse. Ensuite, elle s'arrêta. Elle avait failli lui parler du travail de son mari et de la possibilité qu'il ait aidé à concevoir un vaccin qui empêcherait le virus de revenir pour de bon. Entre New York et Albany, elle avait développé le réflexe de ne dire la vérité qu'en partie, et elle l'avait conservé jusqu'ici. Mais elle réalisa tout à coup qu'elle pouvait à présent se détendre et en parler à Ike. C'était un agent de la division, et elle savait que, s'il avait déserté, sa montre serait rouge. Il y avait une sorte d'IA qui les surveillait. Or, l'écran de la sienne était orange. De plus, il lui avait sauvé la vie. Après, il n'était pas une damoiselle en détresse. Elle s'était sortie de bien des situations difficiles dans les mois qui avaient suivi le Black Friday. Pourtant, les deux fois où elle avait été réellement dépassée, c'était un agent de la SHD qui l'avait secourue. D'abord Doug Sutton, et maintenant Ike Ronson. « Bon, il y a une autre raison à mon voyage, » se lança-t-elle, en sentant déjà une vague de soulagement la submerger à l'idée de pouvoir s'ouvrir à quelqu'un. « Je vous ai dit que je venais de New York ?»
« Vous m'avez dit que votre mari y avait été tué, » répondit-il en levant le sourcil. « Vous étiez à Manhattan ?»«
Ouais, » acquiesça-t-elle.
« Comment avez-vous fait pour échapper à la quarantaine ?»« Le blocus est toujours en place, non ?»«
Un ami à moi a contacté quelqu'un, » expliqua April. « Je pensais que ce serait plus difficile, d'ailleurs. Mais il y a des endroits où c'est aussi simple que de mettre un pied devant l'autre, à condition de connaître le rythme des patrouilles. » Je suis passé par un pont ferroviaire sur la Harlem River.
Il n'y avait pas d'alarme ou d'autres systèmes de sécurité ? Tu parles d'un blocus.
Si, il y en avait. Mon guide m'a montré comment passer par le côté, en escaladant les poutres pour ne pas les déclencher. Ensuite, j'ai pris un bateau jusqu'à Albany, et là, vous n'allez pas le croire, j'ai remonté le canal Erie jusqu'à Buffalo. J'avais l'impression d'être en 1840.
« Je crois que pour un tas de gens, on n'en est pas loin, » fit-il remarquer.
« C'est vrai. » April sentit comme un regain d'énergie à présent qu'elle avait commencé à parler de son voyage et s'était autorisée à raconter toute l'histoire. « L'homme qui m'a permis de sortir de Manhattan est un scientifique. Il... Bon, je ne suis pas sûr qu'il ait connu Bill, mais il avait eu vent de ses recherches, car il travaillait dans des domaines connexes. Si je l'ai trouvé, c'est parce qu'il me semblait à même de m'aider à comprendre pourquoi mon mari avait été tué. Ce qui était vrai dans un sens, sauf que l'explication qu'il m'a donnée n'a fait qu'en soulever tout un tas d'autres. Pas seulement des questions, mais... »
Elle divaguait. Elle en avait conscience. Elle se redressa un peu sur le canapé. Appuyée sur un bras, les jambes toujours allongées, elle reprit.
« Disons simplement que ce qu'il m'a appris a été pour moi le début d'une sorte de quête. »
Elle marqua une pause, car elle réalisa soudain qu'elle risquait de passer pour une folle en parlant de l'AVLS à Ike. « Quel genre de quête ? » l'encouragea-t-il.
Tous deux se figèrent en entendant quelqu'un marcher sur la terrasse. Ike posa la main sur son pistolet et April pivota afin de se lever. Son Super 90 reposait contre l'autre accoudoir du canapé. Par réflexe, elle tendit le bras pour l'attraper. Néanmoins, elle s'arrêta. C'était un autre agent de la division que les flammes éclairaient. De petite taille, il avait le pas aussi léger qu'un chat. À la lueur du feu, il avait l'air d'un Maya, avec son nez pointu, ses pommettes hautes et ses yeux attendrissants, surmonté de grandes paupières et protégé par la visière d'une casquette. Il les regarda tous les deux. Le fait qu'ils aient chacun la main sur leur arme ne semblait pas l'inquiéter. Il afficha d'ailleurs un large sourire.
« Salé ! Et désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Tu es bien Ike Ronson ?